Voici le deuxième entretien, cette fois de nature politique, que nous a accordé M. François-Joseph Lessard.
Votre origine, vous, Monsieur Lessard, et puis votre cheminement. Je sais que vous avez été impliqué beaucoup en politique. J'ai fait savoir sur le message qui a de publicité pour vous, pour annoncer notre conférence aujourd'hui, que vous étiez le fondateur des Fonds mutuels du Québec. Donc, vous avez dû naviguer à travers les René Lévesque, Pierre-Éliott Trudeau, Maurice Duplessis. On change un peu de sujet, ça vous dérange pas? Jacques Parizeau, peut-être. Aujourd'hui, Landry, vous avez appris de nouvelles?
Ah oui, j'ai appris ça comme tout le monde. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. Moi, je ne suis pas un homme de parti. Je suis un indépendantiste militant, conscient, depuis l'âge de 17 ans, dans les années 30. Beaucoup de gens ignorent qu'ils pensent que tout a commencé en 1960. Voyons donc. Ça ne s'est pas fait pour l'opération du Saint-Esprit, la Révolution tranquille. Il y a des gens qui l'avaient préparé de longue main. Il y a eu, au milieu des années 30, un mouvement indépendantiste à l'occasion du centenaire de la révolte, de la rébellion des Patriotes. Ça a été la suite, la conséquence d'un mouvement antérieur qui avait eu lieu au début des années 20, d'un autre précédent qui avait eu lieu à l'époque de la pendaison de Riel, en 1885. Faut pas penser que l'idée de l'indépendance a été inventée en 1960. C'est bien antérieur, et il y a eu des gens, des illustres inconnus qui ont travaillé d'arrache-pied. Je pense que si je vous donnais seulement le nom de l'écrivain François Hertel, il y a plusieurs qui ne savent pas qui c'est. Mais pourtant, ça a été l'un des champions de l'indépendance du Québec dans le mouvement des années 1935-40, au pays de Québec. Vous êtes 3 millions d'hommes, sans grande fierté. Pourtant, il vous suffit de quelques hommes fiers. Et ceux-ci auront des fils. Et ceux-là, choisiront d'appartenir à une nation, plutôt qu'un troupeau exsangue d'assimiler. Le jour où un homme, un seul, a choisi cela, c'est cet homme est fort. Et il est toujours. Les autres sont condamnés à marcher un soir ou l'autre pour lui donner raison. Les fils des courants des bois seront alors entrés dans la ligne de leur destin. Ça, ce que je viens de vous dire, ça date de 1940-41. Alors, il ne faut pas penser qu'on vient d'inventer les boutons à quatre trous. Moi, personnellement, ayant eu la chance d'avoir des parents qui, dès l'âge de 4 ans, ont commencé à m'initier à l'histoire du Québec, du Canada et du monde entier, c'est pour ça que dès l'âge de 12 ans, je m'en souviens comme hier, je trouvais que l'indépendance, c'était une chose tout à fait normale pour tous les peuples de la Terre. Puis à 17 ans, j'ai commencé à être vraiment militant. Et quand j'ai vu plus tard, quelques années après, le monde de la haute finance s'ouvrir devant moi, j'ai dit, c'est quoi, j'aille. C'est là qu'il faut que j'aille, parce que, imaginez-vous, au milieu des années 30, qu'est-ce que nous contrôlions?
Rien, c'est ça?
Rien. Même en 1955, un économiste du nom de Melançon avait fait la recension de toutes les économies québécoises en 1955. ce qu'il y avait dans nos caisses, dans nos banques, dans nos compagnies d'assurance. En 1955, c'était 4 milliards. Regardez, aujourd'hui, la Caisse de dépôt, le mouvement des jardins et toutes nos institutions financières, vous nagez dans des centaines de milliards. Au milieu des années 30, je reviens à cette époque-là. Je vous jure que si vous aviez parlé de bilinguisme, seulement de bilinguisme, c'est pas d'indépendance, on serait foutu de votre gueule un peu partout, hein? Il y a eu des pas immenses qui ont été franchis depuis 75 ans. Et il y a beaucoup de gens qui y ont contribué, c'est pas rien qu'une personne.
Et regardez, René Lévesque a tout fait pour enseigner au peuple à se réveiller et à prendre son destin en main, et il a été répudié. Là, Landry, qui est un homme de très haute culture, quand même très compétent dans son domaine, on vient de lui montrer le chemin du départ, puis il l'a pris tout de suite avant qu'on lui dise « va-t'en ». Alors, qu'est-ce que ça va prendre pour qu'il y ait quelqu'un, quelque part, qui t'amène à l'indépendance?
Moi, je ne suis pas prophète, mais connaissant un peu l'histoire de l'humanité, je suis entière, il y a quand même des choses qui paraissent visibles. Un libérateur ou une libératrice, il est. On en a pas à 45 ans.
Il naît libérateur.
Il naît. Dans la France de Jeanne d'Arc, c'est Jeanne d'Arc qui a mené les Français. Dans la défaite des années 40, c'est De Gaulle qui a dit non. Moi, je me rends pas. Qui est-ce qui connaissait le petit colonel De Gaulle, le petit? L'inconnu, en 1937-38, colonel De Gaulle. Si vous regardez l'histoire de l'Amérique du Sud, beaucoup de gens connaissent Bolivar, mais ils ne connaissent pas Francisco de Miranda, c'est pourtant lui. Il a, dès 1812, donné le signal de l'indépendance de l'Amérique. Un individu comme celui-là, c'est un spécimen rare. Officier dans l'armée espagnole, indépendantiste vénézuélien, il participe à la Révolution américaine, il participe à la Révolution française, il devient général dans les armées. Révolutionnaire, et pendant qu'il est en Europe, en passant, il vient à Marie-Catherine de Russie, vous voyez le genre d'individu. Ces gens-là, là, ils sont le résultat d'une foule de vie anonyme et sans gloire, mais. C'est l'affaire sur le tas du mus qui a produit un peuple à un moment donné. Je m'excuse de mon grand discours, mais...
Non, c'est excellent. Autrement dit, le libérateur du peuple québécois, c'est un homme qui sera pas, disons, qui attendra pas après le peuple. Il va leur dire, c'est le chemin, on y va. C'est tout.
Ça,
on ne demande pas la permission pour se libérer.
Du tout.
Est-ce qu'on entrevoit cette personne-là?
Généralement, l'histoire du monde démontre que c'est rien qu'à devenir, peut-être.
À la dernière
quand,
minute.
Quand Hertel a écrit aussi, et parce qu'il y a deux, dans ces personnages, il y en a deux, entre autres, qui dialoguent, au fond, c'est le même, hein, c'est Hertel lui-même. Il y a un des deux personnages qui dit à l'autre, « Oui, mais pourquoi vous ne parlez pas tout de suite? » Il répond, La crise n'est pas assez noire, et ceux qui n'ont rien à dire n'ont pas encore assez parlé.
J'oubliais le titre du livre que vous avez écrit avant celui-là, ça s'appelait comment?
Mon livre précédent, il y a 25 ans, ça s'intitulait « Message au frère », entre guillemets, mon frère Trudeau.
Message?
Oui, message au frère Trudeau, il est dans la plupart des bibliothèques du Québec et de l'Ontario. Message au pluriel au frère Trudeau.
Pourquoi vous l'appelez frère?
Entre guillemets.
Je vais vous répondre. Question éminemment pertinente. Il existe au Québec depuis 1838 une société secrète qui s'appelle les Loges des Frères. Les Loges des Frères Chasseurs. Cette société n'a jamais cessé d'exister depuis 1838.
1838.
Oh. Et j'y ai été recruté, j'avais 17 ans, et je ne suis pas le seul à avoir été recruté à cette époque-là. Et je peux vous dire que, à leur tour, ceux de ma génération ont fait des petits. Or, François Hertel, Rodolphe Dubé, un jésuite, professeur à Brébeuf, avait comme élève un certain Pierre-Éliott Trudeau, qui m'a présenté lorsque nous avions à peu près 20 ans. Et que j'ai Pensez-moi l'expression québécoise embarquée dans les loges des frères chasseurs. Vous comprenez que je peux même dire, parce qu'il n'y a rien de méchant à dire ça, et même moi qui a présenté sa première maîtresse, et je peux vous dire que ça n'a pas n'importe qui. Celle qui est devenue l'écrivaine québécoise. Décédé, hélas, André Maillet. En tout cas, il y avait autour d'Hertel, Hertel à ce moment-là, milieu des années 30, des années 40 aussi, était, je dirais, le centre, le porte-voix du patriotisme québécois. Alors, pour revenir à votre question, ça c'est une anecdote. Quand j'ai fondé les placements collectifs, le premier fonds mutuel québécois en 1955-56, en passant le soir même de la fondation, j'ai été interviewé à la télé de Radio-Canada par le plus brillant journaliste de l'époque. Il ne savait pas ce que c'était qu'un fonds mutuel ni l'indépendance. Il s'appelait René Lévesque. Toujours est-il que j'ai toujours prétendu, puis ceux qui me connaissent le savent, que c'est vrai, Trudeau et moi, on était comme des jumeaux intellectuellement parlant, sauf qu'on est devenus des ennemis, des adversaires. Donc, quand j'ai fondé les placements collectifs en 55, on recrutait là-dedans comme cofondateurs des gens qui avaient déjà une influence dans certains milieux. Certain Alfred Rouleau, qui était directeur général à cette époque-là de l'assurance Ville et Jardin. Paul-Émile Charon, secrétaire général de la Fédération des caisses populaires. Dans un autre domaine, le père Forand, des industries Forand à Plessisville. Gérard Delage dans le domaine de l'hôtellerie et des artistes. Bon, alors j'avais recruté une vingtaine de membres comme ça. Puis ça, pour donner confiance au public avec raison, fait que ces gens-là étaient pour leur réputation. Hein. Alors j'ai demandé à Trudeau. Ça coûtait 2 500 $. Il a dit non. Et excusez mes parenthèses, mais c'est quand on juge les choses avec le recul du temps que on a plus de chance de voir juste. À la même époque, j'ai sollicité à nommer Claude Ryan, puis il a dit oui, puis il a fait son chèque. Hein? Alors, et là, le fédéraliste, un gros méchant, là, qui participe activement, puis là, l'autre, là, lui, qui est multimillionnaire, puis débrouillez-vous. Donc, quand en 1955, Pierre a refusé de participer à ce que je devrais appeler offensive économique des Canadiens français, ça a sonné une cloche dans ma tête. Qu'est-ce qui se passe? Puis je suis pas sûr des gens qui étaient dans les coulisses de la politique, on n'était pas sur les planches, on était en arrière de série ficelle, par exemple. On se dit, oh, quel tangent qui prend. Moi, je pense que Pierre Trudeau n'a jamais eu d'autre dieu que Pierre Trudeau. Il se foutu complètement, aussi bien des anglophones que des francophones. Je pense. Je me souviens, à l'époque, nous avions 20 ans. Moi, j'étais le fils d'un petit cendrier, je peux me faire, j'ai pas de tout. Hein. Et Pierre avait un décapotable.
Le décapotable rendu célèbre sur la colline parlementaire à Ottawa par Pierre Elliott.
Puis ça arrivait qu'on arrêtait sans feu, un arrêt de feu de circulation ou autre. Au sol des piétons, puis Pierre disait « Marche, maudit pauvre! » J'ai entendu une couple de fois. Dans le temps, moi je suis sûr qui a interprété ça comme une grosse farce. Et avec le recul des années, je suis pas sûr que c'était une farce. Elle répondit à votre question.
Il détestait vraiment les Québécois. Comme il dit.
Il détestait personne. Il s'aimait seulement lui-même.
Oui, narcissique, on peut dire.
Je crois que Hertel a commis l'erreur de flatter trop Pierre. Je reviens au milieu des années 30, aux années 40. Il le présentait à tout le monde comme le futur libérateur du Québec, celui que vous attendez, madame.
C'est
tout
le côté noir de ce qu'on
attire. Ben oui,
le côté sombre de la force, Pierre-Éric
Trudeau.
Il n'aimait pas personne, ce bonhomme-là.
Ben, vous avez bien compris.
Comment ça qu'on l'a élu comme ça, on l'a monté au nu?
Ben, parce que c'est un gars très intelligent, un gars cultivé, il savait vendre sa salade.
Madame,
ben, c'est pour ça que je vous répète, quand au milieu des années 50, des proches comme moi ont vu quelle tangente ils prenaient en refusant de mettre 2 500 $ pour aider. Savez-vous combien chacun des cofondateurs des placements collectifs en 1955, avec son petit 2 500 $, a reçu quand on a vendu la compagnie au mouvement des jardins le 25 juin 69, 25 000. C'était pas un mauvais placement. Ça a parti à zéro, puis quand on a vendu au mouvement des jardins, il y avait 55 millions d'actifs. Dans les fonds. Ça a été le début de la révolution tranquille.
Est-ce qu'il pousse son fils comme lui? On dirait
j'ai rien qu'à l'écouter, le fils, puis je vois qu'il marche sur les traces de son père.
Le plus vieux.
Justin,
oui. Oui, Justin.
Il y a Justin comme ça. Oui, c'est ça. Pas les autres. Vous voulez dire Justin, celui qui se promène dans justement la Mercedes décapotable de son père?
Nous autres, là, les indépendantistes discrets, là, quand on a vu l'enfant venir au monde en 72, juste avec des élections, on a été méchants, on a dit just in time.
Puis vous verrez aux prochaines élections fédérales, on dira la devise du Canada est changée. Ça va être d'un Trudeau à l'autre.
Oh, moi, je ne serais pas surpris qu'il y ait des ambitions politiques, oui, là, jeune homme. Ah oui. Il manœuvre.
Mais tiens, je peux vous demander, avec toute l'expérience que vous avez du monde politique et économique du Québec, qu'est-ce que ça prendrait pour que on l'acquiert, notre indépendance?
Ça va prendre cet individu, femme ou homme, qui est quelque part dans l'ombre, puis qui, à la faveur des circonstances, va tout d'un coup émerger. Je suis pas prophète, mais... quand la France était vainquée et écrasée, en 1941, personne ne pensait qu'il y allait avoir des petits colonels, là. Bon. Moi, je m'en rends pas. C'est jamais calculé, c'est pas mathématique, c'est viscéral.
Vous voulez nous parler des loges des frères chasseurs un petit peu?
Oui, ben en gros, voyez-vous, ça a été fondé en deuxième partie de l'insurrection de 37-38, ça a été fondé en 38. À cette époque-là, c'était une société secrète armée. Et là, vous savez, les patriotes savaient que s'il allait arriver, sauf à Saint-Denis, ils ont tout perdu leur bateau. Puis, ils ont été pendus ou exilés. Alors, les survivants ont dit, ils ont réalisé que essayer de faire l'indépendance, parce que c'est vraiment l'indépendance, hein, suggéraient les patriotes. Vos vieux fusils contre des canons, c'est pas comme ça qu'on va avoir le dernier mot. Alors, la société s'est convertie en une espèce de société pacifiste qui rejetait la violence à l'avenir, mais qui visait à grouper dans ses membres à toutes les générations futures ceux qui tenaient des signes d'être des leaders dans le domaine économique, dans le domaine politique ou dans le domaine social, dans n'importe quel domaine. Un nombre beaucoup plus restreint qu'à l'époque de la rébellion. Un groupe qui, au lieu d'essayer de faire l'indépendance par les armes, essaierait pas à pas de génération en génération de placer les Québécois dans un état où ils pourraient acquérir l'indépendance. C'est ça que c'est fait, je vous l'ai dit tantôt, en 1885, à l'occasion de la pendaison de Riel. Ça a sorti le feu a sorti de sous la tente. En 1920, après la guerre, il y avait un député, je ne me souviens pas lequel, qui a osé parler d'indépendance en plein Parlement. Puis, au milieu des années 30, donc j'ai été non seulement des témoins, mais un des acteurs. Ça aboutit à l'évolution tranquille. C'est pas fini. Parce que les révolutions, ça se fait dans les cœurs, dans les cerveaux.
Selon vous, qu'est-ce qui manque au Québec pour la faire l'indépendance? Est-ce qu'il manque de quoi? On peut y aller, c'est juste une question de volonté.
Il manque quelqu'un capable d'avoir... quelqu'un qui aurait le talent de René Lévesque un peu plus loin encore. Il manque un homme qui serait, un homme, une femme, qui serait à la fois, comme dit le poème de Rudyard Kipling, à la fois peuple et roi. C'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois un leader, mais qui ses racines le suivent constamment. Puis il sait parler au peuple. Un langage compréhensible, potable.
Avez-vous déjà entendu parler de la légende du grand monarque? Du grand monarque.
Non.
Non, OK.
La légende du grand monarque. Ah,
ouais.
Oh, c'est pas là, dans les prophéties, là,
de notre
de lui qui est supposé à amener la paix avant la fin du monde.
Oui, puis accompagné du pape au pied nu.
Je me souviens, moi.
Le pape au pied nu.
Vous m'avez rafraîchi la mémoire pour un petit bout, là, mais je me souviens pas de tout.
Non, d'accord, mais je voulais juste...
Il y a à peu près 100 000 personnes qui me sautent dans la cervelle.
Oui, je me dis.
Des fois, là, je vais en oublier. Hein.
Je ne sais pas, on a dépassé largement notre temps, mais avec vous, ça valait...
Ben, ça a été bien agréable avec vous aussi. Hein. Je vous remercie toutes et tous très profondément.
Merci beaucoup d'être venu. Je vous invite à rencontrer nos invités lors de notre conférence mensuelle qui a lieu la première fin de semaine de chaque mois, le vendredi à Québec et le dimanche après-midi à Montréal au Cégep Maisonneuve. Et au cours de tout cet été 2005, nous avons des rencontres à tous les samedis soirs qu'il fera beau chez moi à Mont-Saint-Hilaire. Consultez les pages concernant les rencontres jardins et conférences ici sur notre site. Merci de votre attention et à la prochaine.